والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من شفاء الإسلام نغمسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité de parler de son dîn, de parler un peu de la religion quelques instants, après avoir accompli donc cette salat al-isha en congrégation. Et ce soir, nous allons essayer, inshallah, d'aborder en 10 minutes, 15 minutes, un problème dans la société, un péché que la société qualifie plutôt de défaut, mais c'est véritablement un péché qui fait partie de ce qu'on appelle les péchés intérieurs. Parce que quand un musulman accomplit de bonnes actions, il y a les a'mal bil jawarih, il y a les a'mal al-qulub, les actions qu'on fait avec les membres. Après, il y a les bonnes actions qui sont de le cœur, la confiance en Allah, le retour vers Allah, at-tawba wal-inaba, etc., etc. Et il y a des péchés également qu'on fait avec les membres. Une personne fait le zina, une personne vole, une personne frappe quelqu'un. Et puis, il y a des péchés qui sont plus sournois, des péchés qui sont dans les cœurs. Et une personne peut avoir l'impression de ne commettre aucun péché extérieur, mais son cœur est rongé par des défauts qui sont ancrés dans son cœur et qui ne sont pas des défauts, ce sont véritablement des péchés. Et parmi ces péchés-là, il y a une chose que notre prophète alayhi salat wa salam a mis énormément en garde, subhanallah, les musulmans donc contre ce problème. Et ce défaut-là, ce péché, pardon, peut amener le musulman très loin, peut amener le musulman, le mu'min, à détester son prochain. Ce péché peut amener le musulman à rompre les liens avec ses frères, ses soeurs, avec sa famille. Ce péché peut amener le musulman à causer du tort à son prochain. Ce péché peut même amener le musulman à aller voir un sorcier pour faire un sort, un maléfice, hein, une sorcellerie contre son prochain. Ce péché peut même amener un musulman à tuer son prochain. Ce péché, c'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam a qualifié comme étant al-hasad, la jalousie. La jalousie, si quelqu'un ne le maîtrise pas, hein, je sais que ça peut paraître exagéré tout ce qu'on a dit, ça peut amener jusqu'à tel point, mais la jalousie, c'est quelque chose que Shaytan, alayhi la'natullah, met dans le cœur de l'être humain. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que la jalousie et la foi, ce sont deux choses qui ne peuvent cohabiter dans un même cœur. Hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, hadith un peu long, à la fin, le prophète, alayhi salatu wassalam, cite les choses qui ne peuvent cohabiter. Parmi cela, وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدِ. Ce hadith rapporté par Imam Nasa'i, rahmallah, dit que dans le cœur d'un mu'min, d'un musulman, la foi et la jalousie ne peuvent cohabiter. Pourquoi la foi et la jalousie ne peuvent cohabiter? Quand je suis musulman, j'ai foi en Allah, je sais que Allah il est mon khaliq, mon raziq, mon malik, mon créateur, mon pourvoyeur, celui qui donne, celui qui reprend, celui qui décide qui aura tant, qui aura peu de choses, celui qui distribue là le rizq, la subsistance de ce dunya, et qui a décidé qui aura des hauts grades et des grades moins élevés le jour des comptes. Donc quelqu'un qui est jaloux, hein, qui n'accepte pas que son voisin, que son frère, que son cousin, que son camarade est plus riche que lui et réussit là où il n'a pas réussi, que telle personne a pu épouser telle fille que lui il voulait mais qu'il n'a pas eu, que son camarade roule dans une belle voiture et lui peut, etc., etc. Des exemples de la vie de tous les jours. Celui qui n'accepte pas ce qu'Allah lui a accordé et qui voit les autres et qui ressent comme quelque chose qui le ronge intérieurement, c'est ce qu'on appelle la jalousie. Quand ça nous ronge, quand on ne peut pas supporter de voir quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas, qu'on sache bien que ça, c'est un piège de Shaytan qui est en train de se refermer sur nous. Ça, c'est une maladie spirituelle. Quand quelqu'un a été touché une fois par la jalousie, il y a de fortes chances que la personne récidive, que tout le temps Shaytan pourra la voir hein, tournant dans n'importe quelle situation de la vie par le biais de ce péché. Et la personne dans la vie de tous les jours, il fait ses salats, le ramadan arrive, il fait ses saum, il jeûne, il fait le qiyamul layl même peut-être, il fait la prière de la nuit, il lit le Coran, il fait le zikrullah, alhamdulillah, c'est quelqu'un qui donne l'impression et il a lui-même l'impression d'être un bon mu'min, un bon croyant. Mais il y a quelque chose qui est en train de le ronger, c'est pire qu'un cancer. C'est pire qu'une tumeur qui se généralise, c'est cette jalousie. À chaque fois que la personne va voir quelqu'un qui a une qualité de dunya que lui n'a pas, il va sentir un malaise intérieur et cette personne, il ne se rend pas compte, mais il est en train de remettre en cause le taqdir. C'est quelqu'un qui a une maladie spirituelle. C'est quelqu'un qui n'a pas compris les 6 piliers de la foi, les arkanul iman, qu'on enseigne aux enfants. Croire en Allah, ses anges, les livres, les prophètes, les anbiya alayhi salatu wassalam, le jour du destin. Et parmi ces piliers de la foi, il y a quoi? Wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Que le destin tout ce qui nous arrive de bien ou tout ce qui nous arrive de moins bien, ça vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Et les ulama, rahimahumullah, disent que pour quelqu'un ait la foi complète, il faut compléter le iman sur le taqdir. Et ça, c'est le plus difficile. Avoir une conviction pure et saine, aqidah sahiha sur le taqdir, c'est très difficile. C'est possible quand tout va bien. Quand tout va bien, dis Alhamdulillah, Allah a dans moi un bon destin, j'ai tout ce que je veux. Mais quand il y a un problème, c'est là qu'on se remet en cause. C'est là que je me dis quoi? Est-ce que j'ai confiance que cette épreuve vient de la part d'Allah? Ou alors je vais me révolter? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Moi je suis musulman, lui il est kafir, il n'a rien du tout, il a tout ce qu'il veut. Et moi j'ai des problèmes. Là on teste, Allah Azza wa Jal, pardon, on teste la foi réelle du musulman. C'est dans l'adversité et dans les difficultés qu'on voit est-ce que là-dedans c'est costaud. Est-ce que les bases sont en béton ou les bases sont en liège, c'est un château de cartes qui peut s'écrouler. Quand il y a un petit problème qui arrive, tout s'écroule. Toutes nos belles prières, toutes nos belles machin apparences extérieures, quand il y a un problème, là on remet tout en cause. Wallahu musta'an. Donc cette maladie, ce péché, la jalousie, et on a dit c'est un cancer, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui touche la foi. Parce qu'il est en train de ronger la foi sur le destin. Quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui n'est pas persuadé que c'est Allah qui a donné la subsistance à chacun. Quelqu'un qui est jaloux de son prochain, c'est quelqu'un qui n'est pas convaincu que je n'aurai que ce qu'Allah a prédestiné pour moi. Et ce qui n'a pas été écrit pour moi, je ne pourrai jamais l'avoir. Celui qui a la jalousie dans son cœur, c'est quelqu'un qui a sous-ouvannu billah. Ça c'est grave ça. Qui a une pensée, na'oud billah, négative sur son Seigneur. Alors que si quelqu'un il avait une bonne pensée sur son Créateur, il saurait que si Allah ne m'a pas donné, il y a un grand bien dedans. Si Allah ne m'a pas donné, cela émane de sa sagesse. Et Allah seul sait pourquoi il ne m'a pas accordé. Hein, on devait suivre un tartib dans les hadiths, mais bon. Le prophète alayhi salatu wasalam nous a expliqué qu'il y a des gens pour qui Allah a donné les richesses de ce monde. Et Allah il sait pertinemment que si cet homme-là n'avait pas eu ses bienfaits, quelle aurait été sa situation. Et pour d'autres personnes, Allah Ta'ala a prédestiné la pauvreté, une vie simple. Et Allah il savait, parce que la science d'Allah, ma kana wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah il connaît le passé, le présent, le futur. Mais Allah il connaît également le conditionnel. Ça c'est le ilm d'Allah. Quand on parle de la connaissance, la science d'Allah, le ilm d'Allah c'est le conditionnel. Allah il sait que s'il avait prédestiné telle chose, qu'est-ce que la personne aurait fait? C'est-à-dire, Allah il sait ce qui ne se produit même pas. C'est un peu compliqué. Allah il connaît le choix qu'on a fait, qu'il a prédestiné pour nous, et s'il avait prédestiné un autre choix, quelle aurait été notre situation? Donc, pour certaines personnes, Allah a prédestiné la pauvreté ou une vie simple, sachant que si cette personne était riche, quelle aurait été sa situation? C'est-à-dire quoi? Quelle aurait été sa situation? Si quelqu'un, telle personne, Mohammed, Ishaq, il n'a pas trop les moyens, mais si Allah lui avait accordé les biens, une belle voiture, beaucoup d'argent, il aurait fait tel péché. Il aurait été à Las Vegas, il serait parti à Cannes, dans tel endroit, il aurait, à Ibiza, il aurait fait telle erreur, tel péché, dans le zina, dans l'alcool, dans la drogue, dans toutes sortes de choses. Allah subhanallah, cette personne se dit que pourquoi moi pour l'argent? Pourquoi moi pour pas dire de gros mots, pourquoi moi j'ai juste ce qu'il faut, j'ai pas grand chose, lui là, subhanallah. Imagine que cette richesse que tu convoites, que tu aurais aimé avoir, ça aurait été ton passeport pour entrer au Jahannam, immédiatement. Parce qu'avec cet argent-là, Allah il savait que ta foi est faible. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui n'ont pas les moyens, non, ça c'est un exemple, un cas de figure. Allah il sait que telle personne, s'il l'avait eu, il n'aurait pas hésité à sombrer dans les tentations. Et subhanallah, même une personne, hein, je veux dire, on va passer d'exemple en exemple. Je connais une personne qui était très portante, bien gros. La personne a fait un régime, sport, salle de musculation, pas musculation, streps, pas que t'es des bêtises, ils font encore, il faut payer pour faire bouger, pour... Bref, la personne est devenue, yani, une silhouette un peu plus présentable, hein, c'était une dame, et maintenant elle devient source de fitna et elle veut séduire. Alors qu'avant, quand elle était, comme on dit, un dubba, c'est quelqu'un de bien, mashallah, ma'ihtaj, quelqu'un qui a bien mangé, qui était petit, quand elle était comme ça, quelqu'un qui est bien important, les gens ne regardent pas. Mais quand quelqu'un, il devient maigre, devient une belle silhouette et tout, là, il devient source de tentation, les gens regardent, et la personne aussi pense à séduire les autres. Donc, dans tout ce qu'Allah a prédestiné, il y a un khair, il y a un bien. Ça, c'est le sens profond de Walqadri khairi wa shari min Allah ta'ala. Bref, pour revenir à ce qu'on dit, le prophète alayhi salatu wasallam dit que ça, c'est un poison. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est pas comme la société occidentale qui dit la jalousie est un vilain défaut. C'est pas un vilain défaut. C'est un piège de shaitan. C'est un gouffre spirituel. Ça vous fait perdre vos valeurs, ça vous fait perdre vos convictions, votre confiance en Allah. Et quand un musulman n'a plus confiance en son Seigneur, il est mort.
Quand quelqu'un n'a plus husnul dhann billah, une pensée positive de son Rabb, de son Khaliq, il est mort. Parce qu'intérieurement, quand il aura une difficulté, pensera-t-il à lever les mains avec sincérité et dévotion et demander à Allah son aide, alors qu'il n'a pas une pensée positive de son Seigneur? Parce qu'il remet en cause ce qu'Allah a distribué aux gens. Vous voyez, la jalousie, c'est pas juste que j'ai eu le tourment à la poème, il n'est pas content. Non, ça va beaucoup plus loin. Et le prophète alayhi salatu wasalam dit, hadith magnifique de Dhamra ibn Tha'laba, la yazalu nasu bi khayrin ma lam yatahasadu. Hadith rapporté par Al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib, dit que les gens seront toujours bien, les gens auront toujours la tranquillité, ils seront alhamdulillah dans le bien tant qu'ils n'auront pas la jalousie de leur cœur, tant qu'ils ne vont pas s'envier les uns les autres. Tant que quelqu'un se contente de ce qu'Allah lui a accordé, ça c'est une qualité ajib ça. On appelle ça al-qana'a. Al-qana'a c'est quoi? C'est le fait d'être satisfait de ce qu'Allah m'a accordé. Je vis dans un F2, j'ai une petite voiture, alhamdulillah, je suis en bonne santé. Je ne suis pas handicapé, je suis saint d'esprit. On n'a pas besoin de m'amener en chaise roulante jusqu'à la masjid. Je veux aller acheter le pain, j'y vais tout seul. Ça c'est des ni'mas ça. Ça c'est des bienfaits de la part d'Allah. Je vois, alhamdulillah, j'entends, j'ai tous les facultés. Alors la personne, même s'il n'est pas très riche, la personne se dit que ce qu'Allah m'a accordé, c'est suffisant. Il ne va pas essayer de devenir l'homme le plus riche, d'avoir la cupidité. Il ne va pas l'avoir de son cœur et donc il n'aura pas hubb dunya. L'amour intense pour les biens de ce monde n'entrera pas dans son cœur. Et le prophète dit que tant que vous n'aurez pas ce défaut, le fait de s'envier les uns les autres, vous serez bien. Bien de votre foi par rapport à ce qu'on a dit, parce que quelqu'un qui a le qana'a, qui accepte le destin, qui accepte ce qu'Allah a lui accordé, c'est une preuve de foi, une preuve de présence de iman dans son cœur. Mais bien également, les ulama disent psychologiquement. Parce que dans, subhanallah, le corps humain, il y a le physique, il y a le côté psychologique, et puis il y a la foi. Il y a les trois choses, il faut bien gérer, d'accord? Et quelqu'un qui a la jalousie, c'est quelqu'un qui ne dormira jamais tranquille. Parce qu'à chaque fois qu'il va voir quelqu'un avec un bienfait, ça va le ronger intérieurement. Et subhanallah, dans la vie, il y a des gens qui sont plus pauvres, il y a des gens qui sont plus riches. Et à chaque fois qu'il va voir quelqu'un avec un bienfait, ça va le miner, ça va détruire sa vie. À un moment donné, qu'il ne voit plus les bienfaits qu'il a, il voit uniquement les bienfaits que les autres ils ont. C'est pour ça que le prophète dit que tant que les gens n'auront pas ce défaut, ce péché de leur cœur, les gens seront bien, tant sur le plan spirituel, on rappelle, que sur le plan psychologique. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal iyyakum adh-dhann. Notre prophète alayhi salatu wa sallam, de ce hadith qui est un peu long, le prophète dit que il donne des conseils aux musulmans. Il cite les grands défauts qui peuvent habiter les cœurs d'un mu'min et péchés qui sont insufflés par Shaitan. Premièrement, on va être un peu plus rapide pour s'arrêter où est-ce que ça nous intéresse. Iyyakum adh-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Premièrement, n'ayez pas de mauvaises pensées pour votre prochain. Parce que les mauvaises pensées, c'est les plus grands mensonges sataniques. Quand on voit une personne qui n'était pas là, dit, ah, lui il est parti, par exemple samedi soir, quelqu'un il est là tout le temps, salade. Il n'est pas là, il est parti en boîte, c'est sûr. Sûr, il a conseil à Bouba, il est parti voir Bouba. Il n'y a rien, il n'y a pas un pourcentage de doute. Ce frère-là, il est là tous les samedis soirs. Ça, c'est les pieds de Shaitan. Ah, il m'a regardé en travers, il a quelque chose contre moi, c'est sûr. Ça, c'est les mauvaises pensées. Shaitan, il vient, il insuble les waswasa pour qu'on arrive à un point où on se déteste mutuellement. Ça, c'est un grand maqsad de Shaitan. Quand Shaitan arrive à semer la discorde entre deux musulmans, il est fier. C'est sa ligue des champions, ça, Shaitan. Quand il a pu casser un couple, c'est la coupe du monde, ça, Shaitan. Faire rater un namaz, c'est quoi? Adi. C'est quelque chose qu'il peut faire. Mais casser un couple ou casser une relation familiale, dans certains hadiths, je n'ai pas vérifié les sources, dit que quand les petits shayatines reviennent vers Iblis, Iblis fait comme un compte rendu de la journée. Et les shaitans les plus aimés par Iblis, ce sont ceux qui ont pu semer la zizanie entre deux personnes. Première chose à propos de laquelle le prophète met en garde, iyyakum adh-dhann, les mauvaises pensées. Deuxièmement, wala tahassasu wala tajassasu, ne vous épiez pas et n'espionnez pas. N'essayez pas de savoir lui qu'est-ce qu'il fait. Il faut respecter la vie privée, respecter la vie de son prochain, les libertés individuelles. Ensuite, wala tanafasu wala tahasadu, et là ça nous intéresse, ne vous rivalisez pas dans les biens de ce monde, ni n'ayez pas de jalousie les uns envers les autres, wala tabarabu, et ne vous détestez point. C'est-à-dire que si on essaie de se concurrencer dans le dunya, ça va amener vers la jalousie. Et quand il y a la jalousie, ça amène irrémédiablement vers la haine envers, les uns envers les autres. Parce que quand on n'est pas content que quelqu'un a réussi, moi je n'ai pas réussi, je vais finir par le détester. Et les hadiths disent bien que on n'aura jamais la foi tant qu'on ne va pas s'aimer mutuellement. Le prophète alayhi salatu dit un hadith, si on retrouve ce texte, qui dit, hadith très connu, que vous n'aurez jamais la foi, والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. Vous n'entrerez jamais au paradis sans la foi. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Et vous n'aurez jamais la foi tant que vous n'aurez pas de l'amour les uns pour les autres, de l'affection, de l'amitié les uns pour les autres. Et donc, quand j'ai la jalousie, automatiquement, je vais détester celui qui a eu des bienfaits. Donc, comprenez que la jalousie, ça nous prive du vrai iman. La jalousie, ça nous prive de l'accès réellement au paradis. Et le prophète alayhi salatu wasalam dit comme dans le hadith que la jalousie détruit les bonnes actions comme le feu détruit Al-Hatab. Al-Hatab, c'est quoi? C'est les petits brins de vie qui sont les combustibles qui sont facilement détruits par le feu. Donc on comprend à travers ces quelques hadiths et ces quelques citations prophétiques que la jalousie c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et notre prophète alayhi salatu wasalam nous dit également, il nous annonce que viendra une époque, innahu sayusibu ummati da'ul umam, hein, ce qui a détruit les péchés qu'il y avait dans les communautés avant, ben malheureusement là un jour ces péchés vont arriver dans ma communauté également. Les sahaba ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ces péchés? Il a cité quelques-uns, et entre autres, wattakathur wattanafusu fi dunya, wattaba'ud wattahasud. Attakathur, c'est la cupidité, vouloir toujours plus. Wattanafusu fi dunya, c'est se concurrencer dans les biens de ce monde, essayer d'avoir plus que son voisin, que son prochain. Wattaba'ud, le fait que les gens prennent des distances. Et on vit dans cette société-là, où les gens, ils sont distants les uns envers les autres. Mon frère, ma soeur, bon, ça va, le dimanche on se voit, mais sinon, comme on dit en arabe, chouya chouya, doucement, doucement, chacun dans son coin, on sera plus heureux. Hein? Le voisin, il ne veut pas trop mailler, la famille, etc. Que, yani, c'est une culture, ça, malheureusement, hein, de l'individualisme, l'égoïsme. On essaie d'avoir tout, mais tout seul. On ne regarde pas son projet. Et ça, ce sont des valeurs qui sont totalement contraires, hein, aux valeurs du musulman, aux valeurs de l'islam. Et c'était ces valeurs, subhanallah, que le prophète nous a enseigné, c'était à la base du succès de la première ville de l'islam. Al-Madina Munawwara s'est construit, bi'idhnillah, par l'amour entre les cœurs. Quand les muhajirs et les ansar se sont considérés comme frères, ils partageaient, ils s'aidaient mutuellement, le musulman ne dormait jamais dans la rue, le musulman ne mourait pas de faim, il donnait du travail, faisant en sorte que ceux qui venaient d'arriver, ils étaient pauvres, ils avaient de quoi, alhamdulillah, subvenir à leurs besoins. Là, il y a eu la nusra d'Allah, il y a eu la bénédiction, parce que quand on est unis, Allah Azza wa Jal envoie son aide. Quand on est unis, Shaitan ne peut pas entrer dans les cœurs, ne peut pas s'approcher. Hada. On va terminer avec un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wasalam dit que al-hasadu wal-baghda, le prophète a qualifié la jalousie et la haine comme hiya al-haliqa. Haliqa, je ne sais pas comment on traduit en arabe, ça vient de halaqa. Halaqa, c'est couper, raser, enlever quelque chose. Par exemple, raser sa tête, hein, halqu al-ras, halqu al-sha'r, le fait de raser. Le prophète dit c'est quelque chose qui rase, qui coupe, qui détruit. Et le prophète dit la aqulu tahliqu al-sha'r. Je ne dis pas que la jalousie et la haine, hein, c'est quelque chose halika qui coupe comme ça coupe les cheveux là, walakin tahliqu ad-din, ça détruit, ça rase votre religion, ça rase la présence de foi de vos cœurs. Et là le prophète m'a conduit avec le hadith qu'on a dit tout à l'heure, je jure par Allah que vous n'accéderez pas au paradis sans que vous n'ayez la foi. Ça tout le monde le sait. Et le prophète dit que vous n'aurez jamais vraiment la foi tant que vous n'aurez pas de l'amour les uns pour les autres. Et le prophète donne une solution. Vous savez comment faire pour avoir de la muhabba entre vous? Afshu as-salam baynakum, faites le salam les uns envers les autres, parce que ça c'est le premier pas vers la muhabba, vers l'union dans la umma, dans la communauté. Et regardez, en conclusion, le sahaba dit au prophète d'Allah, vous voyez comment, quelles sont les qualités du mu'min. Quand on parle des qualités, c'est pas que les qualités extérieures, on ne juge pas, parce qu'on n'a pas le droit de juger, mais on ne juge pas une personne uniquement sur son aspect extérieur. Non, le sahaba dit au prophète d'Allah, ayyun nas afdal, qui sont, hadith de Ibn Majah, qui sont les meilleurs des gens. Le prophète me dit, kullu makhmoumil qalbi saduqil lisan. Ça veut dire, au prophète d'Allah, saduqil lisan, on sait c'est quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est véridique. Mais makhmoumul qalbi, qalb c'est le cœur, et makhmoum c'est un terme un petit peu compliqué. Et le prophète m'a dit, le makhmoumul qalb c'est quoi? Huwa taqiyun naqi, la ithma fihi, wa la baghya, wa la hasad. En résumé, le prophète dit que c'est ce mu'min qui a un cœur pur. Il n'y a pas de haine de son cœur envers les autres. Il n'y a pas de jalousie. Et c'est quelqu'un qui a la crainte d'Allah. En même temps, il a la crainte d'Allah dans son cœur. En même temps, ce cœur-là est pur. Il n'a rien à reprocher aux autres. Il n'envie pas son prochain. Il n'y a rien de négatif, de mauvais dans le cœur de cette personne. Ça, c'est les meilleurs des gens. C'est-à-dire que pour être les meilleurs des gens, il faut avoir les qualités extérieures. C'est la salat, la zakat, etc. Mais il faut développer les amal, le quloub, les actions qui sont dans les cœurs également. La crainte d'Allah, la satisfaction de ce qu'Allah Azzawajal nous a accordé. Donc ça, c'était quelques hadiths concernant ce terrible problème qu'est la jalousie. Et comment éviter ça? Comment un musulman peut enlever de son cœur la jalousie? Premièrement, en ayant une confiance inébranlable en Allah Azzawajal. Que tout ce qui arrive, ça vient de la part d'Allah. Les choses bonnes comme les choses mauvaises. Le prophète a dit avec un enfant, sache que si le monde entier se réunissait pour te faire du mal, il ne te ferait rien d'autre que ce qu'Allah a déjà écrit contre toi, a déjà écrit comme épreuve. D'accord? Et sache que si les gens se réunissaient pour t'apporter quelque chose, ils ne t'apporteraient rien de plus que ce qu'Allah a déjà écrit en ta faveur. C'est-à-dire, développer. Ça, le prophète ne l'a pas dit aux grands. Le prophète a dit à un enfant. Pour qu'on comprenne bien que ça, c'est la base de la foi. Mais si on n'a pas cette base, on n'a pas les fondations, et on a monté des étages, des fenêtres et des décorations, mais on n'a pas les fondations, ça ne tiendra pas. Si je n'ai pas une confiance en Allah, développer tawakkal ala Allah, la confiance en Allah, je ne peux pas avoir réellement la foi. Donc premièrement, développer la confiance tout en Allah Azzawajal. Développer ce qu'on a dit tout à l'heure, le qana'a, être satisfait de ce qu'Allah Azzawajal nous accorde. Et bien comprendre, qu'est-ce qu'Allah aime? C'est le hadith qui dit que si Allah Ta'ala, si pour Allah ce monde avait une valeur, il n'aurait pas accordé aux kuffar, à ceux qui n'ont pas la foi, l'équivalent de l'aile. Yani, il n'aurait rien accordé. Si ce dunya, pardon, avait la valeur d'une aile de mouche, ba'ouda, pour Allah Azza wa Jal, de moustique ou de mouche, il n'aurait rien accordé, même pas une gorgée d'eau, à celui qui n'a pas la foi en Allah. Ça veut dire que ce dunya, pour Allah, n'a strictement aucune valeur. Et quand on regarde les hadiths qui dit que qu'est-ce qu'Allah aime comme qualité, et quand il aime quelqu'un, il le donne, Allah Ta'ala lui donne la foi, Allah Ta'ala lui accorde la science religieuse. Le hadith dit que lorsqu'Allah Ta'ala aime une personne, il faqqihu fi d-din. Quand Allah Ta'ala veut du bien pour quelqu'un, Allah Ta'ala lui accorde la science, la compréhension de la religion. Ça, ce sont des qualités qu'Allah accorde aux gens. Mais qu'une personne soit riche, soit beau et pleine de choses, de l'honneur, ça n'a aucun intérêt, ça. Ça n'apporte rien à la personne. Au contraire, ça va être des épreuves pour lui. Parce que plus on a de ce dunya, plus on aura à répondre le jour de la résurrection. Na'im. Il y a na'im, c'est le pluriel de ni'ma, des bienfaits. Le jour de la résurrection, vous aurez à répondre à propos des bienfaits. Plus quelqu'un a eu des bienfaits de la part d'Allah, plus il aura des comptes à rendre. Et qu'on comprenne bien, qu'on réalise que le prophète alayhi salam dit que les gens pauvres, le musulman qui n'avait pas les moyens de ce dunya, entrera au paradis, au jannah, avant le musulman riche. Combien de temps avant? 500 années. 500 années avant, le musulman riche qui était dans le droit chemin. C'est pas le musulman riche qui faisait des erreurs. Parce que lui, il était privé de ce dunya. Et Allah ne prive pas quelqu'un ici et dans le-delà. Si Allah a accordé par contre quelqu'un beaucoup de choses ici, dans le-delà, comme on dit, il faut passer à la caisse. Tout ce que vous avez eu, tant de choses, répondez, est-ce que vous les avez utilisés à bon escient? Mais pour répondre à tout ça, il faut le temps, ça. 50 ans, 60 ans de bienfaits, il faut répondre à chaque question. C'est pour ça que celui qui n'avait pas grand chose de ce dunya, il voit qu'il entre le paradis 500 années avant son voisin qui lui était riche. Et là, je vous assure qu'il ne regrettera pas une seconde d'avoir eu cette vie difficile, voire très juste dans ce dunya. Qu'Allah t'en taufik, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de vraiment de méditer sur ces choses-là. Parfois, c'est des péchés qui sont tellement enfouis dans nos cœurs, on ne se rend même pas compte. Mais on a des choses graves qui détruisent notre foi et, comme le prophète me dit, qui détruisent nos bonnes actions. Donc là, le mois de Ramadan est proche, on est dans le mois de Rajab. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne ce doigt. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Chose que le prophète a encouragé le musulman de lire. Mais le prophète ne l'a jamais fait après la salat. C'est pas que chaque fois que la salat finit, le imam lit pour que les gens. Non, ça c'est. Si quelqu'un il veut se rappeler, Inch'Allah, Abdelhak a fait imprimer, on va mettre là. Ça c'est un mudhakara. Puis quelqu'un il le lit une fois, deux fois et puis il le mémorise. On essaie de lire ça, demander à Allah de nous accorder la bénédiction de ce mois. Et donc dès maintenant, on doit préparer notre mois de Ramadan. Et il ne faut pas que dans notre Ramadan, il y a des choses qui détruisent nos actions. Et la jalousie, on a vu, détruit la foi. Détruit les actions. Donc on va enlever ça de nos cœurs avant la venue de ce mois. On demande à Allah Azza wa Jal de nous aider s'il y a ce problème de nos cœurs. Oh Allah, enlève ça de mon cœur et comble mon cœur de satisfaction de ce que tu m'as accordé. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.